est 18h, l'heure de votre émission Une heure en Palestine, présentée chaque mercredi par l'association Palestine 13, antenne départementale de l'association France-Palestine Solidarité, et je suis Vincent. Merci à Sidi qui assure la technique. Commençons par une sinistre nouvelle et un communiqué de l'association France-Palestine Solidarité. L'État israélien a approuvé une nouvelle loi qui obligerait les tribunaux militaires auxquels sont soumis les seuls Palestiniens. Le texte s'appliquera aux Palestiniens seulement, y compris ceux habitant en Israël. Cette loi modifierait également le droit pénal israélien et introduirait la peine de mort pour les meurtres intentionnels d'Israéliens dans le cadre d'actes terroristes. Vous avez bien entendu, qui aurait eu l'intention? Les intéressés seraient donc exécutés pour intention de meurtre. Depuis toujours, les Palestiniens, même mineurs, sont présentés à des tribunaux militaires israéliens. Idem pour la détention administrative. Elle est prononcée à leur encontre par un tribunal militaire. Sur les 200 États du monde, 113 ont aboli la peine de mort. L'État israélien fait partie des 7 pays qui ont aboli la peine de mort, sauf pour des crimes exceptionnels. La dernière exécution a eu lieu en 1962, celle du nazi Adolf Eichmann. En fait, elle était abolie, mais fut réintroduite pour son exécution, et abolie par la suite. Cette nouvelle loi israélienne est contraire au droit international, notamment par sa rétroactivité, par la réduction du seuil requis à la simple majorité, par la suppression de possibilités de recours. Elle viole également les normes du droit humanitaire applicables aux résidents d'un territoire occupé. Le haut-commissaire des Nations Unies a rappelé que le fait de priver tout Palestinien de Cisjordanie et de Gaza des garanties d'un procès équitable prévu par la 4e Convention de Genève constituait un crime de guerre. Nous le savons, Israël se moque du droit international. Mais après sa condamnation pour crime de guerre et crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale, dit « Statut de Rome », Netanyahou fait quand même attention sur quel sol il pose ses pieds. Il faut ajouter que les conditions de détention dénoncées et documentées par diverses organisations palestiniennes ou israéliennes des droits humains, et surtout par Francesca Albanese, la rapporteuse nationale des Nations Unies sur les conditions d'application des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, sont inhumaines, dégradantes, voire mortelles. Plus de 100 Palestiniens morts dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Les meurtres des Palestiniens sont encouragés. Les exécutions extrajudiciaires commises par les colons ou par l'armée israélienne sont le plus souvent impunies. La mise à mort de Palestiniens est tolérée, voire encouragée. Cette loi discriminatoire d'apartheid s'inscrit dans le génocide en cours. Le dernier rapport de Francesca Albanese conclut que le recours systématique à la torture, combiné à la campagne plus large de destruction infligée aux Palestiniens, constitue une composante intégrante du génocide en cours, infligeant de graves préjudices physiques et psychologiques aux Palestiniens en tant que groupe. Les États, dont la France, bien timide en la matière, doivent prendre des mesures immédiates pour imposer à l'État israélien le respect du droit international au lieu de continuer à lui laisser commettre ses crimes et en lui assurant une impunité totale. Les condamnations verbales sans effet, il faut des sanctions. Maintenant, notre replay. Le 25 mars dernier, Alaa Abou Assira a présenté au président de la République ses lettres de créance comme ambassadrice de l'État de Palestine en France. La suite logique pour que cette reconnaissance de l'État de Palestine ne soit pas une reconnaissance de paille, il faudrait que la France ouvre son ambassade à Ramallah. Sinon, on se retrouve où se retrouve la réciprocité. Je te reconnais, tu me reconnais, mais tu ne viendras pas chez moi installer même un poste de diplomatie hôtelière, comme on dit. L'ombre de Netanyahou veille sur Macron. Notre replay d'aujourd'hui, ex-revue de presse, traitera de l'expansion inquiétante en Cisjordanie de la colonisation illégale opérée par Israël. Nous entendrons le rapport de Ramiz Alabakrov, coordonnateur spécial adjoint onusien pour le processus de paix au Moyen-Orient, dans lequel il condamne l'expansion incessante des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui continue d'alimenter les tensions et de menacer la viabilité d'un État palestinien pleinement indépendant. Nous allons entendre ce rapport, hyper détaillé, un peu compliqué à écouter, mais nous insistons car il s'agit d'un rapport exhaustif, diplomatique et administratif, mais ô combien significatif de la réalité sur le terrain. Avec des détentions administratives d'enfants, c'est-à-dire inculpés et emprisonnés sans jugement, et le décompte lugubre des crimes commis, soit par l'armée israélienne ou les colons surarmés, en Cisjordanie occupée. Ensuite, nous entendrons un entretien de Glenn Diesen, écrivain norvégien, dans une interview en traduction simultanée du professeur américain Jeffrey Sachs, directeur du Centre de développement durable à la Columbia University. Parce qu'il fallait bien en venir à nous interroger, nous entendrons cet entretien argumenté qui porte sur la santé mentale de Donald Trump, dont le projet pour Gaza est, rappelons-nous, celui d'une Riviera gazaoui. Mais nous rendrons hommage à l'humoriste Guillaume Meurice en nous souvenant que d'autres, après lui, pas des satiristes, mais des gens très sérieux, ont traité Netanyahou de nazi. Nous allons entendre Guillaume Ancel sur France Info TV, ex-officier et chroniqueur de guerre, commenter les bombardements sur Gaza avant le cessez-le-feu. Et Dominique Moisy, géopolitologue, faire lui un bref bilan sur France Inter en termes choisis du génocide perpétré à Gaza. Une troisième brève sera celle de Ronnie Broman sur la chaîne YouTube QG à propos du projet de loi Yadan qui prévoit que toute critique du gouvernement israélien pourrait être taxée d'antisémitisme. Voilà, nous les écoutons.
Sous prétexte, je dis bien sous prétexte, oui, de sortir des otages, Netanyahou fait exécuter tous les jours une centaine de Palestiniens qui ne sont même pas liés au Hamas. Donc je suis désolé, mais ce sont des exécutions, ce sont des méthodes de nazis, quoi.
Alors, ce sont des mots très très forts que vous employez, on ne peut pas quand même ne pas revenir dessus, des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots, mais... Oui. Néanmoins, ils sont très forts.
Je travaille avec le mémorial de la Shoah. Oui. D'accord. Ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses.
Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés.
Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie et lui leur répond, je pense à Yair Golan, qui est quand même le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général, il le traite d'antisémite. Mais enfin, il a débordé complètement et je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages.
Quand vous dites « Netanyahou est l'homme le plus puissant du monde », la réponse est clairement non. Si demain matin, ce qui est possible, Donald Trump dit « j'ai gagné, c'est fini, j'arrête », même si Netanyahou n'a pas, entre guillemets, atteint ses objectifs de guerre, il devra s'arrêter. Le maître d'école, qui peut taper sur les doigts de tout le monde après avoir créé le désordre, ça reste Donald Trump.
On vous connaît mesuré dans vos analyses toujours passionnantes, mais dans votre livre qui vient de sortir, Le triangle des passions du monde, vous n'y allez pas par quatre chemins. Pour vous, Benjamin Netanyahou, c'est le pire Premier ministre de l'histoire d'Israël.
Le plus dangereux. celui qui a contribué le plus à l'isolement du pays. À un moment donné, dans, dans mon livre, je crois que j'ai cette image un peu forte, dure. Et les images de Gaza se sont substituées dans l'imaginaire du monde à celles de la Shoah. Et donc, est-ce que il a tué la Shoah dans l'imaginaire mondial? Est-ce que c'est simplement le passage du temps, l'érosion des émotions d'hier face aux émotions du présent? Il a dû accélérer quand même le rythme de l'érosion du temps.
C'est en Europe qu'est mort le droit international humanitaire, enfin en tout cas qu'il est agonisant. C'est du fait des coups que lui a portés l'Europe en ne l'évoquant pas un instant pour la guerre de Gaza. Et même en faisant comparaître devant les tribunaux des gens qui se portent solidaires des Palestiniens confrontés à un génocide qui s'abat sur eux. Eh bien, c'est ceux qui protestent contre le génocide qui semblent être les coupables de quelque chose. Mais ceux qui commettent le génocide ou ceux qui soutiennent ceux qui commettent le génocide, eux, n'ont absolument aucun problème, rien. Donc, aussi bien sur le droit interne que sur le droit international, la situation est absolument épouvantable, je trouve. Et nos dirigeants, et pas seulement les dirigeants français, ont pris une très lourde responsabilité en criminalisant la critique d'un État colonial génocidaire, parce qu'il faut, enfin, moi, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Israël, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, non seulement État colonial, ça c'est pas nouveau, mais État génocidaire, ça, ça vient d'arriver. Et c'est encore en train de se produire. Eh bien, la critique de cet État-là va bientôt envoyer ceux qui la profèrent devant les tribunaux. Je me sens personnellement menacé, comme on peut l'imaginer, par la loi Yadan, qui va être discutée dans une dizaine de jours.
Merci à nos trois intervenants. Nous entendons maintenant Ramiz Alakbarov, responsable du rapport aux Nations Unies.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais tout d'abord exprimer mes préoccupations concernant l'escalade à laquelle nous assistons au Moyen-Orient et je présente mes sincères condoléances aux victimes des hostilités. J'espère que la diplomatie et que la paix pourront prévaloir. Je souhaiterais également saluer la présence du haut représentant du Conseil de la paix. Je salue les progrès accomplis concernant la mise en œuvre de la résolution 2803. Le cessez-le-feu doit être respecté et consolidé grâce à la pleine mise en œuvre de tous les éléments de cette résolution, notamment la force de stabilisation internationale, le désarmement du Hamas et des autres factions armées à Gaza et le transfert des responsabilités au Comité national pour l'administration de Gaza. L'ONU travaille avec toutes les parties, maintient une présence et est prête à fournir une aide humanitaire pour passer à la reconstruction. Monsieur le Président, aujourd'hui, cette séance est consacrée au 37e rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2334 de 2016. Ce rapport couvre la période qui va du 3 décembre 2025 au 13 mars 2026. La résolution 2334 du Conseil de sécurité demande à Israël de cesser immédiatement et complètement toutes les activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et respecter pleinement toutes ses obligations juridiques en la matière. Mais les activités de colonisation ont continué à un niveau élevé. Pendant la période à l'examen, les autorités de planification israéliennes ont approuvé quelques 6000 unités de logement dans la Cisjordanie occupée, notamment 3160 dans la zone C, et 2850 à Jérusalem-Est. Le ministère israélien du logement a publié des appels d'offres pour 5375 unités de logement dans la zone C. 3401 de celles-ci concernent la zone E1. Le 8 février, le gouvernement israélien a approuvé un ensemble de mesures qui vont renforcer l'autorité civile israélienne en Cisjordanie occupée. Cela va également consolider la planification, le contrôle administratif israélien, notamment dans certaines parties des zones A et B, notamment le transfert des autorités municipales d'Hébron, des permis de construction pour la mosquée d'Ibrahim et le tombeau des patriarches. Donc transfert aux autorités israéliennes. Ces mesures vont enlever tous les obstacles qui empêchaient l'acquisition de territoires par des Israéliens. Et cela va provoquer un transfert des autorités depuis l'autorité palestinienne vers l'administration civile israélienne. Le 15 février, le gouvernement israélien a approuvé un plan pour reprendre le processus d'enregistrement des terres dans la zone C de la Cisjordanie occupée et a alloué à cette fin quelques 244 millions de shekels, près de 78 millions de dollars des États-Unis. Il y a eu une accélération des démolitions et des saisies de structures palestiniennes. En citant le manque de permis de construire octroyés par les autorités israéliennes. Mais c'est presque impossible pour les Palestiniens d'avoir accès à un tel permis. Il y a donc 429 structures à Jérusalem, en Cisjordanie, qui ont été détruites et quelques 575 personnes ont été déplacées. L'expulsion de ces Palestiniens à Jérusalem-Est occupée a continué le 4 janvier. La police israélienne a chassé deux familles palestiniennes de leur appartement dans la zone de Batn al-Hawa, à Jérusalem-Est, occupée, déplaçant 8 personnes. Les colons ont pris le contrôle du bâtiment peu après. C'est le sixième tel incident dans ce quartier depuis le mois de février 2024. Le 10 février 2026, les autorités israéliennes ont délivré des notices d'évacuation contre 11 familles palestiniennes dans le même quartier, ce qui concerne 80 personnes, notamment des enfants. La résolution demande à Israël de cesser toutes les mesures, de prévenir tout acte de violence, tout acte de provocation, de destruction. Les actes de violence contre les civils ont continué avec beaucoup d'incidents mortels. Je ne peux pas en dresser la liste, car ces incidents sont nombreux. Le cessez-le-feu à Gaza reste extrêmement précaire. Les forces Le cessez-le-feu à Gaza reste précaire. Les forces de défense israéliennes ont continué leurs opérations militaires avec des frappes aériennes, des bombardements, des tirs, notamment dans la bande de Gaza, notamment à proximité de la ligne bleue. Les groupes armés palestiniens, notamment le Hamas, se sont livrés à des échanges de tirs avec le personnel des forces de défense israéliennes. Pendant cette période, 292 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes, des bombardements à Gaza. 1741 Palestiniens ont été blessés. 651 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les 30 et 31 janvier, les forces de défense israéliennes ont mené à bien des frappes aériennes à Gaza, tuant 33 Palestiniens. 7 femmes, 7 enfants. Les forces de défense israéliennes affirment avoir ciblé le Hamas et le djihad islamique, leurs commandants, et des sites associés à ces groupes. 8 militants sont sortis d'un tunnel à Rafah le 30 janvier, 3 ont été tués, 1 a été capturé. Il y a un niveau de violence élevé en Cisjordanie, notamment Jérusalem-Est, ce qui est très préoccupant. Dans cette région, 32 Palestiniens, y compris 7 enfants, ont été tués pendant des opérations des forces de sécurité israéliennes. Il y a eu des échanges de tirs, des attaques de colons et d'autres incidents. 833 Palestiniens, notamment 138 enfants, ont été blessés, notamment 172 par les forces israéliennes, après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Et 141 ont été blessés par des tirs et 322 par des attaques de colons israéliens. Selon les sources israéliennes, 2 civils israéliens, notamment une femme, ont été tués par des Palestiniens armés. 49 autres Israéliens, notamment 5 enfants et 5 femmes et 4 membres du personnel de sécurité israélien ont été blessés par des Palestiniens pendant des tirs, des attaques au couteau ou à la voiture bélier. 1600 Palestiniens ont été arrêtés pendant des opérations Cisjordanie occupée. Actuellement, Israël détient quelque 9245 Palestiniens, dont 3358 en détention administrative. Le 1er février, les forces israéliennes ont désigné les camps de réfugiés de Jenin, Tulkarm et Nour HaShams, zone militaire fermée jusqu'au 31 mars, interdisant l'accès sans permis octroyé par l'armée, déplaçant quelque 33 000 résidents de ces camps, tout en continuant à grande échelle la destruction des maisons et des infrastructures dans les camps. Il y a des attaques de colons tous les jours, souvent en présence des forces israéliennes. Des personnes ont été blessées, des infrastructures endommagées, des communautés palestiniennes déplacées. Le 16 décembre, un colon israélien aurait tué un Palestinien de 18 ans près de Toukou, à Bethléem, pendant les obsèques d'un Palestinien de 16 ans qui a été tué par les forces israéliennes le 15 décembre. Le 26 janvier, à la suite d'attaques répétées et de menaces de la part des colons israéliens, à proximité d'avant-poste, les 100 résidents de la communauté bédouine de Ras Ain al-Oja ont été forcés de quitter leur communauté. Auparavant, il y avait eu également le déplacement forcé de 98 familles palestiniennes, au total 485 personnes les 8 et 19 janvier. Le 27 janvier, 100 colons israéliens ont attaqué 4 communautés à Massafer Yatta, au sud d'Hébron, blessant 6 Palestiniens, notamment 2 femmes et un enfant. Par la suite, le 7 mars, un colon israélien a tué un Palestinien de 27 ans à Massafer Yatta pendant une altercation après que des colons ont pénétré illégalement sur le territoire de familles palestiniennes dans la zone B. 6 Palestiniens ont été tués par des colons entre les 2 et 8 mars. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont continué en Cisjordanie occupée et en Israël. Le 26 décembre, un homme palestinien a tué 2 Israéliens, notamment une femme, et a blessé 2 autres Israéliens, notamment un garçon, pendant une attaque à la voiture Bélier et une attaque au couteau dans les villes israéliennes de Beit She'an et Afula. Pendant le mois du Ramadan, comme pendant les années précédentes, les autorités israéliennes ont imposé des restrictions aux Palestiniens de la Cisjordanie qui souhaitaient se rendre à l'esplanade d'Al-Aqsa, limitant le nombre de permis supplémentaires délivrés aux Palestiniens qui souhaitaient se rendre à Jérusalem pour la prière du vendredi le 28 février dans le cadre des mesures sécuritaires et des limites imposées au rassemblement. Les autorités israéliennes ont imposé des restrictions à l'accès à la vieille ville de Jérusalem, notamment les sites saints. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2334, demande aux partis de s'abstenir de toute action de provocation, d'incitation, de rhétorique incendiaire. Et là, ces actes se sont poursuivis. Le Hamas et le djihad islamique palestinien ont continué à faire l'apologie des attentats terroristes et ont appelé à plus de violence contre les Israéliens. Un responsable du Fatah a qualifié les Israéliens de néo-nazis et affirmé qu'Israël était voué à périr. Des ministres israéliens, des membres de la Knesset continuent à demander la création de colonies à Gaza, l'annexion de la Cisjordanie et l'émigration des Palestiniens depuis les territoires palestiniens occupés et ont affirmé qu'il fallait tuer l'idée même d'un État palestinien. Le 20 février, un membre de la Knesset israélienne a pénétré à l'intérieur de la bande de Gaza, affirmant « Gaza nous appartiendra toujours ». Le 20 janvier, un responsable de la ville de Jérusalem a dit qu'Israël devait expulser et éliminer tout le personnel de l'UNRWA peu après que le complexe de Sheikh Jarrah a été saisi et presque complètement démoli par les autorités israéliennes en contradiction flagrante avec le cadre juridique. Le 25 janvier, ce complexe a été incendié par des attaquants. Le secrétaire général On a informé le président de l'Assemblée générale et le président du Conseil de sécurité le 28 janvier 2026. Monsieur le Président, la résolution 2334 réitère les appels lancés par le quatuor du Moyen-Orient pour que des mesures soient prises pour mettre un terme à ces tendances négatives sur le terrain qui mettent en péril la solution à deux États. Le 24 janvier, le président Abbas a délivré un décret modifiant la législation sur les élections pour que les candidats soient obligés de connaître l'autorité, l'OLP en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien. Le 2 février, il a délivré un décret autorisant des élections directes au Conseil national palestinien. Le 1er novembre 2026, le 13 février, l'autorité palestinienne a publié un projet de constitution pour l'État de Palestine pour une période d'examen public de 60 jours à la suite d'une demande de la Commission électorale centrale. Les Nations Unies ont déployé une mission d'évaluation des besoins électoraux des 16 au 24 février. Israël a continué de saisir les recettes douanières palestiniennes. L'autorité palestinienne affirme qu'Israël détiendrait actuellement quelque 8 milliards de shekels israéliens, ce qui ne fait qu'exacerber la crise budgétaire à laquelle fait face l'autorité palestinienne. Et pour ce qui est des accords bancaires, ils continuent d'être renouvelés pour de courtes périodes. À Gaza, 1,4 million de personnes sont déplacées dans quelques 1200 sites, souvent dans des conditions surpeuplées, malsaines, depuis le début de l'escalade militaire au Moyen-Orient et à la mi-mars. Peu d'aide humanitaire avait pu pénétrer à l'intérieur de Gaza par le biais du point de passage de Kerem Shalom. Le 30 décembre, Israël a annoncé qu'elle allait suspendre les opérations de certaines ONG internationales. Le 27 février, la Haute Cour de justice israélienne a bloqué cette mesure de façon temporaire. Monsieur le Président, dans la résolution 2334, le Conseil de sécurité demande à tous les États de faire la distinction entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. La résolution 2334 demande à toutes les parties de continuer, notamment de consentir des efforts pour entamer des négociations crédibles sur le processus de paix au Moyen-Orient. Le 14 janvier, les États-Unis ont annoncé le début de la phase 2 du plan global pour mettre un terme au conflit, entériné par la résolution 2803 du Conseil de sécurité. Le 16 janvier, les États-Unis ont annoncé la constitution d'un gouvernement de transition pour Gaza, comité national pour l'administration de Gaza et la désignation d'un représentant. Le comité s'est réuni au Caire le 16 janvier et a continué les préparatifs pour assumer ses responsabilités de gouvernance. Le Conseil de la paix a eu des réunions le 22 janvier et le 19 février. Pendant ces réunions, les États membres se sont engagés à fournir 17 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Le 20 février, un bureau de liaison avait été créé entre le bureau du représentant et l'autorité palestinienne. Le 1er février, Israël a réouvert le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte pour permettre des mouvements pour les piétons. À ce jour, 848 personnes ont quitté Gaza par le biais de Rafah. 844 sont rentrées à Gaza par ce point de passage. À la suite de l'escalade militaire au Moyen-Orient le 28 février, ce point de passage a été fermé et il a ouvert le 19 mars. Monsieur le Président, en guise de conclusion, je souhaiterais partager avec vous les observations du secrétaire général concernant la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2334 dans les territoires palestiniens occupés, Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Premièrement, l'expansion des colonies israéliennes continue rapidement et il y a des mesures qui sont prises qui promeuvent l'annexion de la Cisjordanie. Je condamne ces activités de colonisation israélienne en Cisjordanie qui alimentent les tensions, qui entravent l'accès des Palestiniens à leurs terres et qui menacent la viabilité d'un État palestinien pleinement indépendant et contigu. Ces activités, notamment l'expansion des avant-postes de colonies, se produit sur fond d'attaques menées bien par les colons. C'est une violation de droit international. Cela ne fait qu'ancrer l'occupation israélienne illégale. Cela sape le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Les colonies israéliennes et toutes ces infrastructures n'ont aucune validité juridique et constituent une violation du droit international, notamment de résolutions applicables des Nations Unies. Et je souhaiterais citer l'avis consultatif de la CIJ du 19 juillet 2024 qui a réaffirmé, entre autres, que l'État d'Israël avait l'obligation de mettre un terme à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés dès que possible. Le gouvernement israélien doit respecter ses obligations au titre du droit international. Ces mesures israéliennes unilatérales transforment progressivement le paysage. Je suis grandement préoccupé par les décisions prises par le gouvernement pour renforcer le contrôle territorial et administratif israélien en Cisjordanie. Ces mesures vont saper l'autorité des autorités palestiniennes. Cela va provoquer l'expulsion des Palestiniens de leurs terres. Cela va saper l'autorité palestinienne. Cela va à l'encontre d'accords existants. C'est une violation d'obligation au titre du droit international et le risque est de déstabiliser la situation sur le terrain et de saper toute perspective d'une solution à deux États.
Outre les activités de colonisation, les Palestiniens se confrontent à déplacements, démolitions, expulsions et de terribles restrictions au déplacement et à l'accès qui entravent l'économie et sont des mises graves pour l'accès à l'emploi, les hôpitaux, les écoles, les terres agricoles, les résidents continuent à soi privés le droit de revenir chez eux. La démolition et la saisie des structures palestiniennes entraîne de nombreuses violations des droits humains. J'appelle Israël à mettre un terme aux démolitions de structures appartenant aux Palestiniens conformément à ses obligations internationales. Je note également avec grande préoccupation le récent rapport du haut commissaire aux droits de l'homme qui donne des détails de l'administration discriminatoire par Israël de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, avec des conclusions basées sur les faits sur la discrimination raciale. Le niveau élevé de violence en Cisjordanie est très alarmant. Je condamne tous les actes de violence contre les civils. Je suis vivement préoccupé par le fait que les attaques menées par les colons qui persistent et s'intensifient parfois à proximité avec l'appui des forces israéliennes de sécurité israélienne continuent à déplacer les communautés palestiniennes. J'appelle Israël, puissance occupante, à protéger la population palestinienne contre les attaques et intimidations. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens doivent également cesser. Tous les auteurs d'attaques violentes doivent être traduits en justice. Je reste préoccupé par le grand nombre de Palestiniens, y compris les enfants détenus par Israël, y compris en détention administrative, sans mise en accusation ou procès. Les signalements de torture, mauvais traitements, y compris violences sexuelles et morts en détention, sont extrêmement troublants. L'Israël doit utiliser la détention en dernier recours, prévenir les mauvais traitements et mettre un terme à la détention administrative des enfants. Tous les détenus doivent être traités humainement. Les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées. Je suis préoccupé par de nombreux cas dans lesquels des responsables de toutes les parties ont glorifié la violence et ont mené ont commis des provocations dangereuses, des incitations à ce qui doit être rejeté par tous. La mise en œuvre par Israël de mesures économiques et budgétaires punitives déstabilise les institutions palestiniennes et menace la viabilité de l'autorité palestinienne. Israël a immédiatement cessé ces mesures unilatérales. J'encourage à poursuivre des réformes par l'autorité palestinienne. J'exhorte les partenaires internationaux à fournir l'appui nécessaire à ces efforts. Je me félicite des préparatifs électoraux en cours qui sont essentiels pour le processus de réforme. Je réitère mon appel aux parties. Elles doivent respecter, faire respecter le statu quo des lieux saints à Jérusalem. Elles doivent prendre en compte le rôle particulier historique de la Jordanie. Le lancement de la phase 2 du plan global pour mettre un terme au conflit de Gaza, y compris la création du comité national pour l'administration de Gaza, est une mesure importante. Il est essentiel que toutes les parties respectent pleinement leurs engagements afin que le relèvement puisse avoir lieu à Gaza, tout en promouvant une perspective politique crédible pour parvenir à une solution à deux États. En coordination avec l'autorité palestinienne, l'ONU est prête à appuyer les efforts du comité pour fournir des services publics essentiels, faciliter l'aide humanitaire et poser les bases de la reconstruction. Je me félicite du fait que la dépouille du dernier otage à Gaza a été récupérée. Je suis extrêmement soulagé que tous les otages aient retrouvé leur famille ou aient été rapatriés pour être enterrés. Les détails publiés par les otages sur la captivité sont glaçants, y compris des signalements de violences sexuelles. Je condamne fermement les attaques terroristes de Hamas et autres groupes armés palestiniens le 7 octobre 2023 et le fait qu'ils aient retenu des otages dans conditions inhumaines. Je condamne la poursuite fait de faire des morts et des blessés civils à Gaza, y compris des femmes et des enfants, malgré le cessez-le-feu, les frappes israéliennes, les échanges de tirs entre les deux parties, les pilonnages ont entraîné de nouvelles pertes de vie. Je condamne la poursuite des destructions par les forces de sécurité israéliennes contre d'importantes zones dans la bande de Gaza. Ces incidents doivent immédiatement cesser. La protection des civils est essentielle dans tout conflit armé. Les belligérants ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire. Je suis vivement préoccupé par la grave situation humanitaire à Gaza. La sécurité alimentaire s'est améliorée en raison de l'augmentation de l'aide et des livraisons commerciales, mais l'endommagement des infrastructures est catastrophique. Il y a des graves pénuries d'eau salubre, de soins d'abri. L'accès humanitaire reste restreint. Les convois d'aide sont confrontés à des obstacles logistiques et sécuritaires. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire, y compris faciliter le passage intégral, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire. Je condamne fermement Le fait que les autorités israéliennes continuent à prendre des mesures contre l'UNRWA, ces actes ne sont pas conformes aux claires obligations d'Israël au titre du droit international. Une fois de plus, j'exhorte le gouvernement israélien à immédiatement restituer et rétablir le complexe de l'UNRWA Sharshara et autres installations de l'UNRWA. Je me félicite de l'avis consultatif de la CIJ du 22 octobre qui réaffirme plusieurs obligations fondamentales d'Israël au titre du droit international, telles que l'obligation de coopérer avec l'ONU, y compris l'UNRWA. J'exhorte les États membres à poursuivre leur appui politique et financier à l'UNRWA. Je reste engagé à aider les Palestiniens comme les Israéliens à mettre un terme à l'occupation illicite et à régler le conflit conformément au droit international, aux résolutions des Nations Unies, aux accords bilatéraux pour une vision à deux États. Israël est un État palestinien pleinement indépendant, démocrate, d'un certain nombre viable et souverain, y compris Gaza comme la Cisjordanie, coexistant côte à côte dans la paix et la sécurité sur la base des lignes d'avant 1967 avec Jérusalem comme capitale des deux États.
Merci Ramiz Alagbarov. La parole à Jeffrey Sachs sur la santé mentale de Donald Trump.
Bon retour parmi nous. Nous sommes rejoints par le professeur Jeffrey Sachs. Merci d'être venu dans l'émission. C'est un plaisir de vous revoir.
Bien sûr, j'adore être ici avec Glenn.
Nous avons donc vu que Trump semblait avoir lancé une nouvelle phase d'escalade. D'abord, il a attaqué South Pars, puis les Iraniens ont riposté de manière très brutale. Et ensuite, il leur a donné 48 heures pour capituler en ouvrant le détroit d'Ormuz. Les 48 heures se sont écoulées et il a déclaré « Eh bien, nous avons eu deux bonnes journées de discussions constructives, donc nous allons retarder l'Armageddon. Nous n'allons pas procéder à la destruction des installations énergétiques de l'Iran et l'Iran ne ripostera pas. » Cependant, les Iraniens ont affirmé « En réalité, nous n'avons eu aucune discussion. » Ni direct, ni indirect. Comment interpréter cela? Trump fait-il marche arrière ou attend-il simplement en préparant l'arrivée de ses troupes au sol dans la région? Comment comprenez-vous cette situation?
Il n'est pas facile de comprendre un président des États-Unis qui ment effrontément d'une manière immédiatement démasquée. Il n'y a eu aucune discussion, encore moins les grands progrès et les accords complets que Trump a décrits. Il existe donc bien sûr de nombreuses théories, et je ne pense pas que nous puissions en retenir une seule comme décisive. Une théorie qui, à mon avis, mérite vraiment d'être prise au sérieux est que Trump fabule, c'est-à-dire qu'il vit dans un monde délirant. Je crois qu'il est mentalement malade, et de nombreux psychologues pensent qu'il souffre d'une démence frontotemporale combiné à la pathologie sous-jacente du narcissisme malin, ce qui signifie que cet homme est un mégalomane, un narcissique, un psychopathe. Et cela a toujours été vrai tout au long de sa vie. Mais en plus de cela, il perd pied. Il a toujours été méchant, mais il est en train de perdre le contrôle. D'accord, c'est l'interprétation psychologique. Je pense qu'il ne faut pas la mettre de côté car Trump est extraordinairement erratique en ce moment. Ses phrases ne sont pas cohérentes. Parfois même ses mots ne le sont pas. Et bien que cela soit souvent écarté au profit d'analyses politiques ou tactiques, je pense qu'il faut le prendre très au sérieux. En fait, je parle depuis de nombreuses années de l'état mental de Trump. Sa personnalité de la triade noire est manifestement psychopathique, manifestement narcissique. Ce que les psychologues m'ont dit depuis de très nombreuses années, c'est que ces troubles allaient s'aggraver, et des analyses récentes de plusieurs psychologues indiquent qu'il existe des preuves claires d'une plus grande impulsivité et d'un manque de capacité d'élocution. D'une manière qui rappelle la paraphasie phonémique, c'est-à-dire le fait de ne pas terminer correctement les mots. Donc je pense que c'est très réel. Ensuite, il y a, vous savez, une deuxième sorte de possibilité purement tactique, à savoir Trump. de manière idiote, car je pense qu'il est indéniable que cet homme n'est tout simplement pas intelligent. Il s'est enfermé dans un coin avec une menace impulsive de 48 heures qu'il ne pouvait pas tenir. Les marchés chutaient en Asie et Trump ne supporte pas que les marchés chutent aux États-Unis. Donc il devait faire quelque chose. Et cette théorie, c'est qu'il est tellement stupide que la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est de mentir. Un mensonge démenti en quelques instants. C'est plausible aussi qu'il se rétracte simplement parce qu'il n'est pas très malin. Une troisième possibilité à laquelle beaucoup de gens adhèrent et qui n'est pas mutuellement exclusive, c'est que lui ou ses proches pratiquent le délit d'initié sur les marchés. Les marchés fluctuent. Ils font des annonces en sachant que ça ferait monter les marchés boursiers et baisser les prix du pétrole.
Stock markets to rise, oil prices to fall, and all you have to do is have a 1 minute.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un préavis d'une minute sur ce que le président va dire. Et voilà, vous pouvez gagner des millions de dollars avec les opportunités les plus faciles qui soient. Il y a des gens qui analysent des transactions mystérieuses sur le marché une minute ou deux avant l'ouverture, et ainsi de suite. Je ne rejette pas du tout cette idée, car la corruption éhontée de cette administration dépasse l'entendement. Ce qui est également vrai, bien sûr, c'est que Trump dit n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais le déplacement plus important des troupes laisse penser que nous allons assister à une sorte d'invasion terrestre. Avec des milliers de marines en route vers la région, il semble difficile de croire que nous soyons au seuil de la grande percée diplomatique dont Trump parle. Et au fil du temps, depuis ces annonces d'il y a quelques jours, les Iraniens ont répété à plusieurs reprises « Non, désolé, il n'y a pas de négociation avec les Américains, ni de cette manière, ni d'une autre, ni directement, ni indirectement. » Mais les marines continuent d'arriver. En résumé, Glenn, je pense que Trump n'a absolument aucun plan. Je ne crois pas qu'il y ait une stratégie militaire claire, je pense qu'il s'agite dans tous les sens. Je pense qu'il est psychologiquement désordonné. Et donc, si cela relève au moins en partie de la fabulation, s'il croit qu'il y a eu des négociations, cela ne me surprendrait pas, même s'il est difficile de le prouver. Mais si l'on met tout de côté et qu'on pose une autre question, non pas pourquoi il l'a fait, mais ce qui va se passer, je pense que nous sommes engagés sur une voie d'escalade. Évidemment, malgré les grands progrès dont Donald Trump a parlé, Israël a immédiatement bombardé Téhéran. L'Iran a riposté par des attaques de missiles contre Israël. Il n'y a pas eu le moindre signe d'une quelconque pause. Et nous savons que les marines sont en route. C'est donc un champ de bataille en pleine escalade, extrêmement dangereux. Je n'accorde absolument aucun crédit aux négociations bilatérales. J'ai un sentiment, peut-être un espoir vain, que cela n'aboutira pas du tout. Mais j'ai un autre espoir qui ne repose pas sur la négociation, mais sur un autre type de diplomatie, à savoir que les présidents Poutine et Xi, ainsi que le Premier ministre Modi, qui représentent une grande partie du monde et sont à la tête de puissants pays, diront clairement à Donald Trump, probablement en privé, « Vous devez arrêter cela. » C'est complètement hors de contrôle et inacceptable. Cela ne s'est pas encore tout à fait produit, mais je pense que c'est pour moi le seul espoir d'une issue diplomatique. Ce n'est pas fondé sur une négociation. C'est fondé sur le fait que quelqu'un ou trois dirigeants de stature considérable disent au président des États-Unis « Voici la réalité ». Tu peux raconter ce que tu veux sur ton Truth Social et ailleurs, mais voici la réalité. Le monde est sur le point de s'embraser si tu continues ainsi. Il faut que tu arrêtes.
Eh bien, je suis d'accord avec ta description du caractère de Donald Trump. Difficile de ne pas l'être. Mais le problème semble bien plus large. Ce n'est pas seulement Trump. J'ai vu l'ancien chef du MI6, donné une interview où il expliquait que l'Iran avait désormais l'avantage, et il semble que les États-Unis se soient trompés dans leurs calculs. Mais ce n'est pas seulement cette erreur-là. Ce ne sont pas uniquement les États-Unis. Nous nous sommes aussi trompés avec la Russie. Nous pensions que leur économie s'effondrerait dès la première semaine. Nous pensions qu'ils seraient battus sur le champ de bataille. Nous pensions qu'ils seraient isolés sur la scène internationale. Nous nous sommes trompés avec la Chine. Nous pensions que leur capacité à résister à cette guerre économique, la guerre technologique, échouerait, que le simple fait de les priver de semi-conducteurs ferait s'effondrer leur économie et leurs industries. Mais d'où cela vient-il, au juste? Avons-nous tendance à sous-estimer tous nos adversaires ces derniers temps? Est-ce simplement parce que nous n'avons plus aucun respect pour eux? Je veux dire, c'est pareil avec les Iraniens. J'ai déjà souligné que le gouvernement iranien bénéficie d'un certain soutien populaire. Il est puissant. C'est la même chose avec la Russie. Je souligne qu'ils considèrent cela comme une menace existentielle. Ils sont puissants et ils riposteront. Ils ont à la fois les capacités et la volonté de riposter. Et pourtant, nous les sous-estimons toujours. Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables d'évaluer nos adversaires de manière rationnelle?
Oui, c'est extrêmement important. En gros, la qualité de la gouvernance aux États-Unis, même la gouvernance en matière de guerre ou de lancement d'attaques, est extraordinairement faible, incroyablement faible. Et c'est une crise de compétences fondamentales. Bien sûr, cela pourrait être encore pire. Il se peut que ce soit une crise de démence. Avec le président précédent, nous avons également eu au moins 2 ans de démence au sein de l'administration américaine. Il se pourrait donc que nous ayons eu, en fait, 2 présidents d'affilée atteints de démence. Et ce n'est pas du tout impossible comme élément d'explication. Mais il y a quelque chose de plus réel et de plus dramatique. J'étais à Pékin plus tôt cette semaine, et ces derniers jours, la Chine vient tout juste d'achever ses réunions des 2 sessions des principales branches politiques et a dévoilé le 15e plan quinquennal. J'ai parlé avec de nombreux dirigeants en Chine et de nombreux participants au processus de planification. Nous avons eu une discussion approfondie sur le 15e plan qui a été élaboré sur une période de 2 ans. Il y a eu d'immenses consultations, des comités d'experts, des groupes de réflexion à travers le pays, des spécialistes universitaires de premier plan y ont participé. C'est en réalité une mobilisation remarquable d'intelligence et de réflexion qui s'y investit. Ensuite, le Premier ministre Li Qiang a présenté la semaine dernière le programme de travail du gouvernement et a examiné le programme de travail pour 2025. C'est un document d'environ 50 pages en anglais, celui que j'ai lu, et il s'agissait d'une discussion très détaillée du programme de travail. À présent, lorsque je compare cela avec les États-Unis, bien sûr, il n'y a aucun plan. Il n'y a pas de plan d'un an, pas de plan d'un mois, pas de plan quinquennal, rien. Puis nous avons eu notre discours sur l'état de l'Union. Autrefois, c'était une occasion remontant à 2 siècles où le président envoyait un rapport au Congrès sur l'état de l'Union. C'était alors une documentation substantielle. Quel est l'état de l'Union aujourd'hui? C'est un spectacle moqueur. C'est un événement télévisé. Cette année, pour que Donald Trump se lance dans une diatribe, pour que l'équipe américaine de hockey se lève, pour qu'une personne décorée se lève, pour raconter des histoires, pour invectiver les démocrates dans le cas du discours de Trump. Aucun programme de travail n'a été abordé. Il n'y a eu aucun véritable état de la nation, hormis de fausses formules toutes faites. C'était le contraire d'une approche sérieuse de la gouvernance. Je ressens cela dans tous les domaines. Bien sûr, je ne participe pas à la planification militaire, personne ne me l'a demandé, mais j'observe les activités économiques du gouvernement.
activities of the government. It's completely haphazard. Totally haphazard.
C'était complètement aléatoire. Totalement aléatoire. Toute la guerre tarifaire de l'année dernière, qui a bouleversé l'économie mondiale, relevait d'une impulsivité improvisée, avec des explications folles et naïves sur ce qui avait été fait. Et de mon point de vue, dès le premier jour, c'était absolument voué à l'échec pour atteindre les véritables objectifs économiques annoncés, car c'était d'une formulation tellement primitive. Et à mon avis, ouvertement illégale dès le départ, et le travail de seulement 4 ou 5 personnes. Ce n'était pas l'œuvre d'une bureaucratie avec des analystes formés ayant produit une explication. Il y avait une analyse, enfin il y avait une page unique du représentant américain au commerce que je n'aurais même pas validée pour un étudiant de première année en commerce international. C'était une absurdité, et je le constate sans cesse dans tous les domaines des politiques publiques auxquels je m'intéresse. Il est assez clair qu'il en va de même pour ces questions militaires, car nous entendons des fuites de Joe Kent, des chefs d'état-major, de la CIA, indiquant que rien de tout cela n'est planifié, que rien n'a de sens. On explique à Trump que l'idée d'une frappe de décapitation menant à un changement de régime a très peu de chances de réussir. Nous avons des récits, vrais ou non, qui sait, selon lesquels Netanyahou aurait convaincu Trump de cela sur un plan personnel. Ce que nous avons, c'est un effondrement total des processus rationnels institutionnalisés. C'est vrai dans l'ensemble de notre gouvernement. C'est déjà incroyable que quoi que ce soit fonctionne en réalité. Personne ne fait de travail sérieux. Tout est un jeu, tout est une formule choc, tout est une impulsion. Et il semble que c'est ainsi que ce bombardement s'est déroulé. Ils allaient bombarder, puis Donald Trump allait choisir le prochain dirigeant suprême. Comme il l'a dit, et il devait y avoir une reddition inconditionnelle, et nous allions tous vivre heureux pour toujours. Et lorsque cette illusion s'est effondrée en quelques minutes, il n'avait pas de plan de rechange. C'est donc de l'improvisation du matin au soir. On ne penserait pas que c'est comme ça que les choses se font. Mais on n'aurait pas non plus imaginé qu'une personne comme Trump puisse réellement devenir président des États-Unis, encore moins PDG d'une grande entreprise. Je veux dire, c'est juste, c'est incroyable. Mais c'est devenu normal, Glenn. Tu sais, Trump dit ces choses, et ensuite tous les journaux, au lieu de se demander « est-ce que cet homme est fou ?» ou « comment peut-il dire qu'il y a eu des négociations alors qu'il n'y en a pas eu ?» Ils ne disent pas ça. Ils disent « Donald Trump réussira-t-il dans les négociations ?» comme si c'était quelque chose de sérieux. Alors qu'en réalité, c'est un pardon pour le terme « technique », foutoir total, parce qu'il n'y a aucune gravité dans tout ça en ce moment. C'est de l'improvisation pure.
Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt pour un nouveau replay. Nous terminerons avec le trio Joubran, dont leur musique, qu'ils qualifient de composition innovante pour oud et percussion, prend sa source dans la musique classique arabe, mais laisse place à une grande part d'improvisation. Voilà.